le magazine des Nations Unies.
Début des travaux du dialogue national jeudi dernier à Kinshasa, Maman Sidikou salue la capacité des Congolais à résoudre leurs différends à travers le dialogue et réaffirme la détermination des Nations Unies de les accompagner dans ces processus. Un extrait du discours du chef de la MONUSCO dans cette édition. Maman Sidikou, qui s'est également prononcé pendant sa visite sur terrain cette semaine sous le massacre des populations civiles à Beni. Les activistes des droits de l'homme, bientôt dotés d'une loi régissant leur profession, un atelier organisé à Kinshasa sous l'égide de la CNDH avec l'appui du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a permis à nombre d'entre eux de s'approprier de l'avant-projet de cette loi à soumettre au Parlement. Vous suivrez le coordonnateur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme dans cette édition. Enfin, plus de 400 décès sur 17 000 cas de choléra enregistrés au 20 août dernier dans la partie occidentale de la RDC. L'UNICEF lance un cri d'alarme et préconise des actes stratégiques pour contrer la propagation de l'épidémie. Un spécialiste de cette agence onusienne nous en dira davantage. Il est notre invité.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous. Nous ouvrons ce magazine par le dialogue national qui s'est ouvert jeudi dernier à Kinshasa. Parmi les intervenants, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Maman Sidikou, salue la capacité des Congolais à résoudre leurs différends par le dialogue. Pour lui, le dialogue reste la seule voie pour sortir de l'impasse actuelle. Je vous propose un extrait du discours du chef de la MONUSCO, sélectionné par Jean-Pierre Elali Ikoko.
J'ai la ferme conviction que les Congolais ont la capacité de résoudre leurs différends à travers le dialogue et que nous devons de les accompagner. Pour les Nations Unies, le dialogue reste la seule voie pour sortir de l'impasse actuelle. L'alternative, mesdames et messieurs, c'est la violence, la destruction et la mort d'innocents. Car ce sont toujours, toujours les innocents qui paient pour les rivalités politiques qui dégénèrent. C'est la raison pour laquelle, depuis ma prise de fonction en novembre 2015, en tant que représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, en RDC, chef de la MONUSCO, je ne cesse d'encourager les différentes parties prenantes que je rencontre régulièrement dans le cadre de mon mandat de bons offices, de toujours privilégier le dialogue. Pour les Nations Unies, la cérémonie d'aujourd'hui constitue certes un pas important, mais l'absence d'une partie de la classe politique met en exergue la nécessité de poursuivre nos efforts pour les amener à se joindre à ce processus en leur demandant de faire preuve de plus de flexibilité.
Le discours, la compassion ne suffisent pas pour mettre fin au massacre de Beni. Des mots qui traduisent toute la détermination du chef de la MONUSCO visant à mettre fin à ce que l'on considère comme le drame du peuple de Beni. Maman Sidikou était en visite le 29 août dernier à Rouangoma, quartier de Beni où une cinquantaine de personnes ont été massacrées il y a une quinzaine de jours. Le chef de la MONUSCO était accompagné du nonce apostolique, lui Mariano Montemayor. Jean-Pierre Elali Koko, bonjour.
Bonjour, Suzanne.
Il faut dire que le sujet est revenu au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies.
Oui, la visite du représentant spécial dans les territoires de Beni a constitué l'un des sujets abordés à la conférence hebdomadaire des Nations Unies, avec bien sûr cette rencontre avec la presse le mercredi dernier. Intervenant de Goma, le porte-parole de la MONUSCO, Félix Prosper Bassé, a montré tout l'intérêt de cette visite. Une visite pour exprimer la compassion et la solidarité aux familles éplorées, mais aussi une visite d'évaluation de la situation sur le terrain, une évaluation qui permettrait d'explorer une nouvelle stratégie pour mettre fin au massacre. Félix Prosper Bassé.
Il va sans dire que dans le cadre de cette visite, il a pu évaluer la situation et l'ampleur des autres atrocités qui ont été commises dans cette région et a décidé qu'il fallait changer tous les paradigmes initiaux qui avaient été jusqu'ici mis en œuvre et que de nouvelles stratégies devraient être mises en œuvre pour contrer justement cette tendance à la violence ou cette récurrence de la violence violence que nous avons observée dans ce territoire.
Pour le porte-parole de la MONUSCO, cette nouvelle dynamique doit se faire en collaboration, bien entendu avec les FARDC dans le cadre de l'opération Sukola 1 et surtout avec la coopération active de la population de Beni Boutembo.
Vous savez, quand le renseignement n'est pas disponible, on est comme aveugle et sourd. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre-là que le représentant spécial accompagné du nonce apostolique s'est rendu à Beni pour justement appeler toutes les populations, toutes les composantes, tous les acteurs à s'impliquer de manière déterminée dans la résolution de cette crise. Nous avons besoin des populations civiles, car sans elles, nous ne pouvons absolument rien faire.
Toujours d'après le porte-parole, le plaidoyer de Maman Sidikou en faveur de la population de Beni sera entendu lors de sa mission à New York en ce mois de septembre. Enfin, Monseigneur Montemayor plaide lui aussi pour un effort concerté entre le gouvernement et la MONUSCO pour mettre fin au massacre des civils à Beni.
Merci Jean-Pierre. Autre sujet, cette fois dans le volet de la santé, les organisations communautaires et de la société civile désormais unies dans la lutte contre la tuberculose en République démocratique du Congo. Elles sont regroupées au sein d'une plateforme dénommée Stop TBRDC, chargée de coordination des interventions dans la lutte contre la tuberculose avec l'appui de l'OMS. Cette plateforme a vu le jour jeudi 1er septembre à la représentation de l'OMS à Kinshasa. Les détails avec Honoré Missenga Kalala.
Directeur des services centraux et des programmes spécialisés du ministère de la Santé publique et délégué des différents partenaires ont pris part au lancement du Stop TBRDC. D'après son coordonnateur national, M. Maxime Lungansumbu, cette plateforme vise essentiellement à renforcer le plaidoyer, la participation, la communication et la mobilisation sociale à travers le pays dans la lutte contre la tuberculose. Un tournant pour un pays qui figure parmi les 22 où la tuberculose frappe le plus dans le monde, a rappelé pour sa part M. Cléophas Malaba du ministère des tutelles. Côté OMS, le docteur Bakary Sambo a représenté à cette cérémonie le représentant du bureau RDC, le docteur Yakwide Alarangar. Il a réitéré la disponibilité de l'Organisation mondiale de la santé à accompagner les efforts communautaires dans la lutte contre cette maladie en République démocratique du Congo. La tuberculose n'est pas seulement une maladie, mais un problème des sociétés. De ce fait, prétendre la combattre sans l'apport de la communauté, c'est comme un coup d'épée dans l'eau, a dit en substance le docteur Bakary Sambo.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Après son adoption en juillet dernier à Zongo dans la province du Congo central, l'avant-projet de loi portant protection des défenseurs des droits de l'homme en RDC a encore été au centre d'un atelier à Kinshasa la semaine dernière. Un atelier de 3 jours au cours duquel la Commission nationale des droits de l'homme, avec l'appui du Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme, a permis aux représentants des activistes des droits humains venus de toutes les provinces de s'approprier ce texte avant de le soumettre au Parlement. En marge de cet atelier, Jean-Désiré Kanyama a eu un entretien avec le coordonnateur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme pour le compte du magazine des Nations Unies. Suivez.
Monsieur Julien Atakla, bonjour.
Oui, bonjour monsieur le journaliste.
La CNDH vient d'organiser du 29 au 31 à Kinshasa un atelier de l'avant-projet de loi relatif à la protection des défenseurs des droits humains. Quel a été l'objet de cet atelier ?
Cet atelier, comme son titre l'indique, était un atelier de validation et d'appropriation de l'avant-projet de loi relative à la protection et à la responsabilité du défenseur des droits de l'homme en RDC. Il y a quelques semaines déjà, le BCNUDH avait déjà appuyé la commission dans l'élaboration de cet avant-projet de loi. C'était du 4 au 8 juillet 2016 à Zongo. Et cette activité avait connu la participation de quelques responsables d'ONG, quelques défenseurs des droits de l'homme. Mais il était nécessaire d'élargir la participation, d'inviter des défenseurs des droits de l'homme de l'ensemble des provinces de la RDC pour qu'ils viennent s'approprier, prendre connaissance de ce texte, qu'ils puissent faire des amendements, faire des propositions pour enrichir le texte et que le texte devienne vraiment leur texte. Donc c'est ce qui a été fait au cours de ces 3 jours d'atelier.
Ce forum est intervenu un peu moins de 2 mois après celui de Zongo dans la province du Congo central. En quoi consisterait, d'après vous, la valeur ajoutée à cet avant-projet ?
Alors, à Zongo, comme je venais de l'expliquer, c'était l'élaboration. Le texte a été élaboré et a bénéficié de l'expertise d'un certain nombre de parlementaires, de l'expertise de la CNDH, du BCNUDH, et il y avait un nombre réduit de défenseurs des droits de l'homme qui étaient à Zongo. Ici, nous avons des représentants provinciaux des défenseurs des droits de l'homme qui sont venus pratiquement de toutes les provinces de la République et qui étaient ici pour pouvoir apporter leur enrichissement, leurs commentaires, leur vision, leur perspective par rapport à chaque article du test. Donc le test maintenant a été enrichi et ce n'est plus un avant-projet de loi de la CNDH, c'est devenu à partir de maintenant un test dont la société civile s'est appropriée.
Et après la tenue de Kinshasa, quelles sont les étapes à suivre ?
Dans la stratégie qui avait été adoptée lors de l'atelier de Zongo, la prochaine étape, c'est la sensibilisation des sénateurs, parce que le test sera soumis d'abord au Sénat pour examen et adoption. La CNDH a réussi déjà à identifier un sénateur qui a bien voulu accepter d'endosser ce test lors de la prochaine rentrée parlementaire. Et donc, il y aura un atelier courant du mois de septembre pour sensibiliser un certain nombre de sénateurs afin qu'ils puissent avoir les arguments, qu'ils disposent vraiment d'une bonne compréhension et des arguments nécessaires pour défendre le test. Une fois que le test sera adopté au Sénat, et nous l'espérons, la CNDH a prévu un autre atelier de sensibilisation des députés. Et les ONG et les défenseurs eux-mêmes sont invités à entreprendre un plaidoyer. D'abord, une restitution en leur sein pour que tous les défenseurs puissent comprendre le test et se l'approprier. Et ensuite, faire un plaidoyer en direction du Parlement et soutenir le député qui a accepté d'endosser ce test pour que le test soit vraiment adopté par les deux chambres du Parlement et puisse être promulgué.
Mais dans cette quête de protection des défenseurs des droits humains en RDC, quel rôle joue exactement le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme ?
De par son mandat, le Bureau est appelé, et c'est ce qu'il fait d'ailleurs, à apporter une expertise technique à la CNDH qui porte à bras le corps ce projet. Le Bureau apporte également un appui financier parce que aussi bien l'atelier de Zongo que l'atelier qui vient de se terminer ici a été entièrement financé par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et la MONUSCO bien entendu, puisque nous faisons partie de la MONUSCO. Donc c'est un appui qui est à la fois technique, qui est à la fois financier, mais qui est aussi logistique, puisque nous avons assuré le déplacement de tous les participants, surtout ceux qui sont venus de l'intérieur, et nous apportons également l'expertise du point de vue des normes et standards au niveau international. Nous enrichissons les débats à la lumière de ces expériences d'ici et d'ailleurs, les bonnes pratiques documentées dans d'autres pays et qui sont promues par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme sont mises à la disposition des participants pour éclairer la discussion et leur permettre vraiment de faire des choix bien informés.
Et vous êtes confiant quant à l'aboutissement de ce processus ?
Oui, nous sommes confiants. C'est la raison pour laquelle nous continuons de soutenir cette initiative-là. Parce que vous savez, depuis 1998, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une déclaration pour la protection des défenseurs des droits de l'homme. Et tous les États sont encouragés à protéger les personnes qui, parfois au risque de leur vie, défendent les droits de tout le monde, les droits de nous tous. Et donc le BCNUDH a foi que cette loi va aboutir et que les défenseurs des droits de l'homme en RDC vont connaître un meilleur destin, une meilleure protection dans la mise en œuvre, dans le déroulement de leurs activités et de leur engagement au profit des droits de l'homme.
Pour terminer, vous savez nous faire le résumé du texte adopté aujourd'hui.
Le texte adopté aujourd'hui comporte 24 articles. C'est un texte qui commence par l'exposé des motifs et qui comprend pratiquement 4 parties, on va dire, 4 chapitres. Donc il y a un chapitre qui concerne d'abord les généralités, la définition de qui peut être considéré comme défenseur des droits de l'homme. C'est un texte qui décline dans un second souffle les droits du défenseur des droits de l'homme. Et dans une troisième partie, le texte décline également les obligations de l'État pour pouvoir soutenir le défenseur dans son travail. Et également, il y a des dispositions finales dans un quatrième chapitre qui assigne une responsabilité à la CNDH dans la mise en œuvre des droits et obligations qui ont été définis dans le test.
Un dernier mot pour terminer.
Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme est très heureux de la participation active des défenseurs des droits de l'homme dans ce processus-là, de leur appropriation du processus Et nous sommes également très heureux de constater l'engagement de la CNDH qui tient à œuvrer pour faire aboutir cette initiative. Et nous invitons aussi bien la CNDH que les défenseurs des droits de l'homme à continuer le travail de sensibilisation, de vulgarisation de ce test-là, sans désemparer, et à soutenir également les députés et sénateurs qui vont présenter ce test-là et le défendre au niveau du Parlement, à faire le plaidoyer en direction des autorités jusqu'à ce que le test soit adopté, promulgué et mis en œuvre.
Monsieur Julien Attakla, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
C'est avec l'Ituri que nous ouvrons cette page de nouvelles en brève. 69 détenus, dont 39 militaires de la prison de Bounia, ont été transférés le 26 août dernier à la prison de Guéti. Prison rénovée par la MONUSCO dans le cadre d'un projet Impact Rapide. Le coût de la rénovation de la maison carcérale de Guéti, 145 305 dollars américains, dont 48 308 pour les équipements. Le projet avait pour but de désengorger la prison de Bounia. Restons dans cette prison de Bounia, toujours avec la MONUSCO. La section appui à la justice et à l'administration pénitentiaire y mène une campagne médicale. L'objectif de cette campagne est de garantir un check-up médical des prisonniers. Cette campagne consiste notamment en des consultations gratuites tous les lundis et vise tous les détenus. Enfin, revenons à Kinshasa pour parler de la mise en œuvre des objectifs de développement durable. La première étape de cette mise en œuvre s'est concrétisée avec la tenue d'un atelier dans la capitale congolaise du 30 au 31 août dernier, atelier au cours duquel a été validé le rapport des priorisations et des contextualisations des ODD en fonction des réalités propres à la République démocratique du Congo.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
La République démocratique du Congo, touchée par une épidémie de choléra qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Outre les zones endémiques de l'est du pays, la maladie se propage dans la partie occidentale et surtout le long du fleuve Congo. Au 20 août dernier, le Congo a enregistré 17 502 cas, dont 468 décès selon l'UNICEF. Franck Abeille, chef watch à l'UNICEF RDC, explique l'état des lieux de l'épidémie ainsi que les axes du plan d'intervention. Il répond aux questions de Jean-Pierre Elali Ikoko.
Monsieur Franck Abeille, bonjour.
Bonjour.
On va parler du choléra en République démocratique du Congo. Le pays est touché par cette épidémie. Et est-ce qu'on peut en avoir l'état des lieux?
À l'heure actuelle, au 20 août, on parlait de plus de 17 000 cas, 17 502 pour être précis, à travers tout le pays, pour 468 décès. Donc ça, c'est aujourd'hui un chiffre qui est très préoccupant pour nous, puisque si on compare à la même période par rapport à l'année dernière, on a doublé le nombre de cas.
Donc cette épidémie était localisée notamment dans les zones endémiques de l'Est de la RDC. Maintenant, ça touche l'Ouest du pays, surtout le long du fleuve Congo. Comment expliquer la résurgence de cette maladie dans cette partie ouest du pays et surtout le long du fleuve Congo?
Il y a évidemment plusieurs facteurs. Ce qu'il faut regarder, c'est que l'un des foyers aujourd'hui du choléra est la zone du Maniema et la zone de Kisangani également, qui communique avec l'ouest par le fleuve Congo. Là-dessus, vous avez beaucoup, beaucoup de mouvements. Vous avez des pêcheurs, vous avez des baleinières, vous avez des populations qui se déplacent d'une zone à une autre. Donc là, on aurait une des premières explications. Une des secondes explications, c'est également les pays voisins. On sait qu'en ce moment, du côté de Bangui, sur la rivière Oubangui.
En République centrafricaine.
Tout à fait. En République centrafricaine, on a, donc sur la rivière Oubangui, qui communique avec le Congo, également une épidémie qui, là, est déclarée dans cette zone. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve avec cette maladie qui se propage très, très rapidement sur tout le bassin du fleuve Congo, aujourd'hui.
Alors, parlons maintenant des Kinshasa, qui est aussi exposé à ces dangers de l'épidémie. Bientôt, c'est la rentrée des classes. Alors, quelles sont les stratégies pour essayer de contrer cette épidémie ou même ces dangers de l'épidémie? Lorsqu'on sait que dans la plupart de nos écoles, il manque de latrines convenables, il manque d'assainissement. Et quelles sont les stratégies que l'UNICEF et son partenaire principal, qui est le gouvernement, ont prises pour contrer les dangers de cette maladie?
Je pense que les problèmes que vous citez ne sont pas liés qu'à Kinshasa, ils sont liés à travers tout le pays. Donc Kinshasa est effectivement très problématique en termes de concentration de population, mais initialement parlant, on retrouve, déjà on se doit de travailler avec les populations qui aujourd'hui sont déjà affectées avec la maladie et de préparer ensuite les autres foyers potentiels. Donc aujourd'hui on a des stratégies qui se développent en milieu rural initialement, donc là où la maladie est présente maintenant, visant à travailler donc sur la partie préparation, sur donc comment est-ce qu'on fait en sorte de pouvoir préparer les autorités, les populations et avoir des plans de contingence, je vais dire fonctionnels. On a ensuite la partie information, parce que c'est très important. S'il se passe quelque chose, il faut que l'on soit au courant de ce qui se passe et comment est-ce qu'on remonte les informations. Et ensuite la partie réponse, qui elle effectivement est très très opérationnelle. Et là-dessus, on travaille avec différents partenaires, étatiques et non étatiques. À travers ces actions, justement, entre autres, sont concernées les écoles avec de la sensibilisation, puisque c'est le premier facteur. N'oublions pas que le choléra, c'est ce qu'on appelle la maladie des mains sales, et qu'une des manières très simples de l'enrayer, c'est de se laver les mains, entre autres, et de traiter l'eau que l'on boit tous les jours. Au niveau de Kinshasa, voilà, on est aussi également en train de réfléchir à déployer ce type de stratégie à grande échelle. Maintenant, vous vous doutez qu'on va aussi parler de moyens, qu'on va parler de financement.
Donc, vous parlez d'un plan d'intervention que le gouvernement et l'UNICEF veulent mettre en place. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, les étapes, et comment est-ce que vous allez mettre en œuvre ce plan d'intervention ?
Aujourd'hui, ce qu'on cherche principalement, c'est comment prévenir du mieux possible la diffusion de la maladie. Donc, clairement, ce que l'on fait, c'est que l'on cherche à l'heure actuelle près de 12 millions d'euros pour travailler avec plus de 660 000 personnes, soit à peu près la moitié de la taille de la population du bassin ouest de la RDC. Donc ça, ce sont des réponses immédiates. Ce qui ne doit pas faire oublier que cette maladie se diffuse quand même principalement pour des raisons structurelles aussi. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans des configurations où, alors à l'exception de certaines crises, réfugiés, déplacés, qui entraînent des mouvements de population, on a des stations de régie des eaux qui ne sont pas forcément fonctionnelles, parce que l'électricité ne marche pas forcément. On a aujourd'hui des nombreux points d'eau qui ne sont pas forcément entretenus, et donc qui sont tout autant de vecteurs propices à la maladie. Donc, les actions immédiates aujourd'hui se chiffrent à 12 millions et sont une première étape. Et ensuite, une seconde étape qui est très importante, c'est comment est-ce que structurellement parlant, on travaille pour éradiquer le choléra.
Et votre communauté parle exactement des 12 millions supplémentaires. Est-ce que vous avez déjà des donateurs ? Et puis, en ce qui concerne l'épidémie, est-ce qu'il y a quelques cas qui ont été déclarés ici à Kinshasa ?
Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on a des donateurs ? On travaille avec des donateurs. Donc, est-ce qu'on a des engagements fermes ? Non, justement, c'est aussi le but de cette...
Mais entre-temps, l'épidémie progresse.
C'est un fait. Oui, l'épidémie progresse. Maintenant, je pense que vous connaissez, comme tout le monde, les chaînes décisionnelles qui, même si elles peuvent être très rapides, nécessitent quand même de s'appuyer sur des arguments. Et ça, c'est très important. On ne peut pas soupçonner des choses et c'est aussi important de se dire que le choléra se doit d'être confirmé à chaque fois qu'on a des soupçons. Ensuite, sur Kinshasa, on a déjà eu quelques cas qui sont apparus. Ce n'est pas encore aujourd'hui problématique, mais c'est vrai qu'il y a tout un travail qui est fait et qui commence à se faire au niveau des ports, notamment, puisque c'est principalement par là qu'arrive la maladie.
Vous êtes spécialiste dans ces domaines. Un dernier mot en ce qui concerne justement les mesures ou peut-être un conseil à donner à la population parce que l'épidémie semble être vraiment à nos portes.
Ouais, je pense que c'est le message à marteler. L'épidémie en elle-même peut être très facilement combattue en se lavant les mains, en traitant l'eau ou en s'assurant un minima que l'eau que vous prenez est propre. Donc...
Mais exactement, les problèmes d'eau potable ici à Kinshasa se posent avec acuité.
Alors, pas tant que ça. Il y a aujourd'hui des points de distribution d'eau. Il existe aujourd'hui typiquement des pompes. Il existe aujourd'hui certains endroits de la régie des eaux où il y a des points de distribution. Il existe aujourd'hui ce qu'on appelle les mécanismes AZUREP, où l'eau, c'est de l'eau propre qui est fournie.
Donc il faut prendre de l'eau propre.
Il faut prendre de l'eau propre et éviter autant que possible d'aller chercher l'eau directement dans le fleuve, que ce soit Nsele, que ce soit Njili, que ce soit le Congo, dans les flaques d'eau parce que c'est pratique. Voilà, c'est de l'eau qui là n'est pas traitée et qui est susceptible d'être contaminée.
Donc ce sont des mesures d'hygiène qu'il faut observer.
Mesures d'hygiène de base, tout à fait, et ensuite effectivement, bon, les deux sont liés, mais ensuite c'est tout ce qui a trait à l'assainissement également. Voilà, et donc ce qu'on appelle, bon, ce qui est un peu moins le cas dans Kinshasa où l'accès à l'assainissement reste très correct, mais voilà, faire attention effectivement où est-ce que vous allez faire vos besoins, bien aller dans les endroits appropriés, voilà, pas de manière aléatoire.
Monsieur Franck, Radio Capi vous remercie.
Merci.
Kachébéré, nous y revenons encore. La semaine dernière, nous vous disions que la population de cette localité, située à 110 km à l'ouest de Goma, était dans l'ensemble contre la fermeture annoncée de la base de la MONUSCO. Cette semaine, la mission justifie sa décision, mais indique qu'elle va faire le plaidoyer auprès du gouvernement pour renforcer la présence de l'armée et de la police nationale congolaise dans cette contrée. C'est ce qu'a expliqué le chef de bureau des affaires civiles de la MONUSCO Nord-Kivu au micro de Sekombi Katondolo.
C'est pas en abandon. Pourquoi? Parce que le plaidoyer est que le gouvernement va renforcer la présence et des FRDC et des PNC. Ceci dit, la MONUSCO va continuer à superviser Kachepéré à travers la base de Niabiondo, mais aussi la base de Massi et de Bignampouri vont essayer d'assurer les patrouilles, la partie nord de Kachepéré. Donc c'est pas en abandon. Les patrouilles vont continuer. Les militaires FRDC et PNC, je crois bien, le gouvernement ne va pas laisser un vacuum. Le gouvernement renforcer et la présence des FRDC et la présence des PNC dès que le Tiobi sera fermé.
Magazine des Nations Unies. Questions aux Nations Unies.
Suivez plutôt cette question.
Nicholas Long de la Voix de l'Amérique. Radio Okapi a annoncé que plus d'une centaine de prisonniers à la prison centrale de Kisangani ont été libérés hier, aussi bien que 42 détenus militaires, que 21 personnes ont également été libérées hier de la prison militaire de Ndolo. Est-ce qu'il y avait parmi ces gens beaucoup de prisonniers d'opinion ou politique? Et comment ces libérations et les autres libérations annoncées récemment répondent à l'appel fait par l'ONU au gouvernement pour un élargissement de l'espace politique?
La réponse de Félix Prosper Bass, porte-parole de la MONUSCO.
Je ne saurais vous dire avec précision dans les détails combien de prisonniers d'opinion étaient dans ce lot de prisonniers qui ont été libérés ou élargis à Kisangani. Ce que je peux par contre vous dire, c'est qu'il faut inscrire toutes ces libérations-là dans le cadre d'une perspective qui a été déjà exprimée par les autorités congolaises, la perspective de pouvoir calmer la situation, la perspective aussi de pouvoir ouvrir d'autres champs pour que les gens puissent aller de manière sereine vers les élections. Ces mesures de clémence sont d'ailleurs, d'abord, il faut le préciser, une prérogative des autorités congolaises, notamment le président de la République, par son ministre de la Justice. Ce que je peux aussi rajouter, c'est qu'il faut se féliciter de toutes ces mesures d'apaisement qui sont prises et qui permettent ainsi de décrisper l'espace politique.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Bonjour, je suis Emmanuel Nongera Kan, marié et père de famille. J'ai fait mes études primaires à l'école primaire Yuki Onatra dans le Maïndombe et après je suis allé au collège Saint-Pierre pour les études secondaires dans la mission catholique IPAM dans les diocèses d'Iliofa dans l'ex-province de Bandundu actuellement Kwilu. Quand j'ai eu mon diplôme d'État en section commerciale et administrative, j'étais inscrit à la faculté de droit à l'université de Lubumbashi où j'avais eu mon diplôme de licencié en droit, option droit privé et judiciaire. Et à la longue, j'avais senti la nécessité de faire un master pour approfondir mes connaissances. Et là, je suis titulaire d'un master en droit international des droits fondamentaux avec focus protection de l'enfant. Je travaille actuellement à la section protection de l'enfant de la MONUSCO comme officier national des protections de l'enfant. Au début, j'avais comme tâche spéciale point focal justice juvénile et à la longue, je deviendrai legal advisor, c'est-à-dire conseiller juridique pour la section protection de l'enfant et partant pour toute la mission. Ma tâche quotidienne, vous savez, la section protection de l'enfant veille à la protection de l'enfant en situation de conflit armé. Et comme en situation de conflit armé, les conseils de sécurité a identifié 6 graves violations des droits de l'enfant, notamment le meurtre et mutilation, recrutement et utilisation, attaque contre les écoles et les hôpitaux, refus d'accès à l'assistance humanitaire, l'enlèvement, les viols et violences sexuelles. Je protège les enfants pour qu'ils ne deviennent pas victimes de ces violations graves de leurs droits. Et lorsque ces violations sont commises, je veille à ce que les enfants soient rétablis dans leurs droits et que les auteurs puissent répondre de leurs actes devant les instances compétentes. Et en même temps, pour veiller sur les 6 graves violations des droits de l'enfant, le gouvernement congolais et l'ONU ont signé un plan d'action pour lutter contre le recrutement et les autres violations graves des droits de l'enfant, bien entendu. Et ce plan d'action est mis en œuvre par un groupe de travail technique conjoint qui est piloté par le ministère de la Défense. Et moi, je suis le secrétaire de ce groupe. C'est moi qui prépare les réunions, les comptes rendus, qui propose les sujets pour la tenue des réunions, ainsi de suite. Avant de venir à la MONUSCO, J'ai presté comme avocat au barreau près de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe pendant environ 8 ans. Et en même temps, j'étais vice-président d'INONG, les défenses des droits de l'homme, dénommé Conseil national des droits de l'homme en islam. Et plus tard, je deviendrai le président de cette organisation. Et tout en étant dans cette organisation, j'ai beaucoup travaillé pour la défense des droits de l'homme parce que j'ai soumetté des communications, comme on dit, à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, au Comité des droits de l'homme. Pendant mon temps libre, je reste avec les amis, j'aime la lecture, je fais les sports, notamment le footing, je fais un peu le vélo, et j'aime la musique, la rumba congolaise surtout. Comme en perspective d'avenir, j'ai toujours pensé défendre mes semblables devant les instances internationales, comme la Cour pénale internationale, le Tribunal pénal international pour le Rwanda, ou travailler comme expert dans une instance internationale pour traiter des cas de violation des droits de l'homme. Merci.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Deux dates à retenir dans vos agendas. Le 5 septembre, journée internationale de la charité. Le 8 septembre, journée internationale de l'alphabétisation. C'est la fin de ce magazine de Nations Unies. Jean-Pierre Elali Koko était à la coordination. Honoré Missenga au reportage. Paul Badianyama à la technique. Suzanne Zobo-Odra vous l'a présenté. Et si vous voulez le réécouter, cliquez sur www.radiocapi.net. Merci à vous de l'avoir suivi et restez branchés sur Radio Capi.